RFI. Grand reportage.
Le magazine de la rédaction vous emmène en Afrique du Sud au rythme de la danse. Omniprésente dans les manifestations contre le pouvoir blanc du temps de l'apartheid, elle a aussi permis à des générations de se construire une identité dans les townships. En Afrique du Sud, la danse comme arme de contestation, un grand reportage de Claire Bargelès.
Soweto, 1976. Le gouvernement de l'apartheid veut faire de l'afrikaans une langue obligatoire dans les écoles noires. Les élèves s'y opposent et commencent à manifester quand soudain la police ouvre le feu. Le township s'enflamme. C'est le début d'une longue période d'émeute. Des jeunes descendent dans la rue, le poing levé, la tête baissée. Ils se rassemblent, occupent l'espace et face à la police commencent à déferler en chantant et en dansant de façon frénétique sur un rythme militaire. C'est le toy-toy, cette danse de la contestation que la chorégraphe Nelly Siwe Kaba a observé de nombreuses fois durant son enfance.
Quand on a grandi à Soweto dans les années 80, on baigne dans cette culture, que l'on y participe ou pas. C'est quelque chose qui se passait autour de moi. En fait, la base du toy-toy, c'est un mélange de marche et de course. Et en même temps, pour en faire une sorte de danse, il faut lever les genoux. Selon sa souplesse, on peut les lever jusqu'à la poitrine. Si vous regardez les vieilles vidéos de cette époque, par exemple, vous verrez que certaines personnes pouvaient les lever vraiment très haut. Et je peux imaginer que cela vous donne de l'énergie, l'envie d'y aller et de vous battre, avec les chants aussi. Vous avez le sentiment que vous allez tout conquérir. Et c'était bien, mais cela se finissait souvent dans la violence. À la maison, on nous interdisait d'y participer.
Cette danse aurait été inspirée par les camarades de lutte de l'ancienne Rhodésie du Sud voisine. L'armée révolutionnaire populaire du Zimbabwe était elle aussi en résistance contre l'oppresseur blanc et ses échanges avec les combattants sud-africains étaient très nombreux. Les pieds qui battent le sol, les cris qui s'échappent, les corps qui bougent en rythme, une façon de mobiliser l'énergie et la motivation nécessaires pour affronter, avec très peu de moyens, la police et l'armée. Le toy-toy permet aussi de reprendre symboliquement le pouvoir, selon Bekizizwe Peterson, professeur de littérature africaine à l'université du Witwatersrand.
Une partie de l'oppression et de l'exploitation reposait sur la volonté de contrôler le mouvement des populations noires. Par exemple, avec les lois sur la maîtrise des déplacements, il s'agissait de définir dans quels espaces et à quelles heures les Noirs étaient autorisés à circuler. Les gens ont alors commencé à utiliser la sphère publique pour exprimer leurs opinions, leur mécontentement. À partir des années 1970, les partis politiques commencent à être bannis, les rassemblements politiques interdits. Donc les gens ont été de plus en plus poussés vers des espaces alternatifs pour afficher leur résistance. Il fallait maintenant clamer et mettre en scène publiquement sa résistance.
Cette gestuelle de la résistance reste aujourd'hui en héritage. Chaque manifestation, chaque rassemblement a son toy-toy, parfois même quand l'objet de la colère est le Congrès national africain lui-même, désormais au pouvoir. Et pour Tamim Kosi, habitué des rassemblements avec son association Right to Know, qui se bat pour la liberté d'expression, il s'agit toujours de se réapproprier l'espace.
On utilise symboliquement notre corps pour amplifier notre voix et faire entendre quelque chose. On reprend le pouvoir. On saute d'un point à un autre pour occuper l'espace jusqu'à ce qu'on soit écouté. C'est aussi montrer que l'on est tous ensemble dans ce combat. Alors voilà, on sauterait comme ça, en allant d'un côté à un autre, comme ça. C'est presque un jogging, mais on peut aller aussi en diagonale, sur les côtés, en haut, en bas. C'est juste imprévisible. Des fois, on s'agenouille aussi pour montrer que même si l'on est en colère et que l'on manifeste, on est aussi pacifique.
Caroline Sunday, autre militante de l'association, c'est de toute façon devenu la seule façon de se faire entendre dans ce pays.
Oui, ça a commencé en 1976, lors de la lutte pour la liberté. Des leaders politiques étaient en exil à l'étranger, d'autres étaient en prison. Mais même aujourd'hui, en Afrique du Sud, pour obtenir ce que l'on veut, on doit en passer par le toy-toy. On doit d'abord se battre pour nos droits avant qu'ils nous entendent. Si l'on ne se bat pas, ils ne nous écouteront pas.
Même les jeunes continuent à utiliser cette arme aujourd'hui, par exemple lors des manifestations récentes sur les campus pour protester contre l'augmentation des frais de scolarité. À tel point que si l'Afrique du Sud possède officiellement 11 langues, le toy-toy est parfois considéré comme étant la 12e. Becky Zizoué-Peterson.
C'est aussi une forme de connaissance, une connaissance qui vient du corps, qui donne du pouvoir. Mais c'est aussi un moyen de créer des liens de solidarité et d'empathie entre les gens en utilisant les chants, les cris et la danse.
Se servir de son corps pour exprimer ses idées, c'est aussi ce qui se cache derrière une autre danse des Township, le Pansula.
Nous sommes à l'est de Johannesburg, plus précisément à Springview, qui fait partie du Township de Katlong.
Wuzim Doyi a monté sa troupe et ouvert son studio là où il a grandi. Dans la rue, tous les passants le saluent d'un cri ou d'un signe de la tête. Et à l'étage, on peut entendre les pieds de ses danseurs qui martèlent le sol. Wuzi est rapidement devenu l'une des figures du Pansula et sa compagnie, VAP, part souvent en tournée dans le monde entier. Mais il n'oublie jamais l'origine de cette danse unique qui raconte le quotidien des quartiers dont il est issu.
Plutôt que de vous expliquer, je vais vous faire entendre. C'est ça le Pansula.
On retrouve dans le Pansula des traces de danse traditionnelle, de lindy hop et un lointain cousinage avec le hip-hop. L'essentiel repose sur un jeu de jambes d'une rapidité impressionnante. Les percussions des pieds sur le sol et les sifflements rythment les mouvements, parfois désarticulés, parfois très coordonnés.
Par exemple, le para-para, c'est ce pas-là.
Rotso Falang Moshe Mavundla, chorégraphe de la troupe.
It's more of a footwork with the rhythm that you just heard, which
c'est surtout un travail des jambes pour faire ce rythme que vous venez d'entendre, le para-para. C'est un mouvement inspiré d'une situation où vous voulez descendre d'un train en marche. Vous allez tomber, sauf si vous vous mettez à battre des pieds par terre, comme ça.
It's a way of finding a balance so that you...
C'est une façon de retrouver l'équilibre. C'est un pas de base, simple. Et on l'utilise aussi pour faire des transitions entre nos autres mouvements.
Le Pansula est une danse de la rue, mais aussi toute une culture, née lorsque les populations noires du quartier vibrant de Sophiatown ont été déplacées de force vers les townships. Avec son chapeau mou enfoncé sur la tête, Wuzi se souvient.
Ça nous vient de nos grands-parents et on a grandi dans cette culture. Si vous pouvez remonter au début des années 50, vous trouverez la trace du Pansula dans le quartier de Sophiatown. Le Pansula, c'est une manière d'être et de vivre. C'est une mode et un langage, une politique de la survie. Ça porte l'histoire de la vie des gens dans le township. Ça a toujours été un moyen de dire « on ne s'identifie pas à ce que vous souhaitez nous imposer ». Le Pansula a toujours été comme ça. C'était aussi politique.
La passion lui est venue tout naturellement alors qu'il était enfant et pouvait observer les adultes danser dans les cours des maisons ou dans les bars illégaux de Katlehong, les shibins, où les Noirs pouvaient se retrouver alors qu'il leur était interdit de fréquenter les établissements réservés aux Blancs.
On a grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de shibins, où les gens consommaient de l'alcool et se retrouvaient pour des réunions ou des associations. Il y avait de la musique et les reines du shibin, ces femmes qui régnaient sur l'endroit. Je me souviens, il y avait cette cour avec beaucoup de cabanes. Et nous, on en louait une. Et il y avait cette musique qui explosait. Surtout les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, la musique était très forte. Et moi, je dansais et les gens adoraient ça. À chaque fois, ceux qui venaient acheter de l'alcool s'asseyaient et demandaient à ma mère ou à sa sœur jumelle « Où est Wuzi ?» pour me faire venir. Et ma danse était le reflet de ce que je voyais autour de moi. Je reproduisais les mouvements d'un homme sous, par exemple, en dansant. Ou des fois, j'inventais mon propre style pour refléter tout ce qui se trouvait autour. J'ai passé mon enfance là-dedans.
L'inspiration peut en effet venir de n'importe quelle situation de la vie quotidienne et partir d'une simple jungle avec un chapeau ou d'une caisse de bière à escalader et à s'échanger.
Il y a des mouvements pour faire comme si on se battait, comme quand on résistait contre l'apartheid. On jette des pierres, on court se cacher, on saute par-dessus une barrière. Ça donne des acrobaties. On peut aussi faire comme si on était en train de manger ou alors danser en cercle, comme si on se rassemblait pour faire des jeux d'argent. Et l'un d'entre nous fait comme ça pour guetter les policiers. Tout ça est chorégraphié pour devenir des mouvements et une danse. C'est complètement illimité. Tout ce qui se trouve dans la vie quotidienne se retrouve dans notre danse.
La façon de s'habiller, toujours très travaillée, permet aussi de se revendiquer de cette culture selon Rotso Falang.
In terms of the dress code, you'll find more colorful things.
Le code vestimentaire, c'est des vêtements très colorés, des habits parfois en patchwork et toujours des chapeaux, des bobs, des casquettes. Et chacun a sa façon de les porter. Certains vont le mettre comme ça, d'autres vont le plier de cette façon. Chacun a son style.
Longtemps chasse gardée des hommes, le pantsoula s'ouvre désormais aux jeunes femmes. Elma Motluenia, danseuse de 23 ans, a commencé par apprendre la danse classique et contemporaine. Mais il y a quelques années, elle a troqué ses chaussons pour des baskets et a mis toute son énergie dans la danse de son quartier. Avec ses gestes précis et expressifs, elle a su se faire une place au sein de la troupe masculine.
La vie dans les townships est plus dure qu'à d'autres endroits, alors il fallait que je devienne forte. Et à chaque fois que je danse le pantsula, c'est comme si j'affirmais qui je suis. Je deviens plus courageuse chaque jour grâce à ça. Je dirais que 98% des danseurs de pantsula sont des hommes. Il n'y a que quelques femmes, mais on se bat pour atteindre le même niveau qu'eux.
La compagnie intègre aussi le gumboots, une danse née dans les mines du pays. Coiffée d'un béret jaune, Vouyani Feni, alias King Gaba, a chaussé ses bottes en caoutchouc pour la démonstration sous les yeux de sa petite fille admirative.
Ça donne de la force à ce qu'on a déclaré. Ça donne de l'impact et de la force. Une fois que l'on a gravé quelque chose dans le sol, cela reste. Cela fait bien passer le message à la personne avec qui on essaie de communiquer. Et aujourd'hui, comme on se produit devant un public, c'est bien pour leur faire comprendre « voici ce que vous devez écouter ».
Au début du XXe siècle, pour combattre les maladies dues à l'humidité dans les mines, les propriétaires décident d'équiper leurs travailleurs avec des bottes en caoutchouc. Il n'en fallait pas plus pour développer un système de communication basé sur la percussion des mains sur les bottes.
Souvenez-vous que les travailleurs dans les mines n'avaient pas le droit de se parler ou de communiquer. Et ces bottes en caoutchouc ont été découvertes et introduites auprès des mineurs. Les mineurs ont commencé à les utiliser comme instruments de musique, comme une forme de communication. Ça a commencé comme une sorte de code pour se parler et ça s'est transformé en danse. Ça a rapidement été utilisé pour manifester. La danse est dans notre sang. Nous avons différents moyens et formes pour montrer notre frustration. Si le patron blanc vient demain et dit « Non, je ne vais pas vous payer », on peut danser pour manifester et faire comprendre que l'on n'acceptera pas cela.
Toutes ces danses servent toujours aujourd'hui à dénoncer la corruption, le niveau de vie dans les townships ou à se faire entendre, selon vous, Imdoi.
Ce système d'oppression, cela nous a finalement aidé à survivre à toutes les situations. Et c'est comme ça qu'on utilise le pantsula aujourd'hui. Sur scène, si on veut parler d'un sujet en particulier, on a la liberté de le faire, ou de poser des questions ou apporter des suggestions. Il y a des gens qui peuvent exprimer des choses, mais sans rien dire, juste par leur façon de s'habiller, de se déplacer. Ils arriveront à faire comprendre qu'ils sont là, sur deux, avec leur message, sans dire un mot.
Et si le pantsula était autrefois associé à la culture des gangsters, cette danse est désormais vue comme une occupation, pouvant éviter aux jeunes de traîner, désœuvrer dans les rues. Depuis, de multiples formes en sont dérivées et la créativité des Township ne cesse de donner naissance à de nouveaux genres portés par la house music. La musique kwaito par exemple, fruit d'une nouvelle liberté d'expression au milieu des années 1990 dans l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, a rapidement été accompagnée par une danse qui lui est propre et de nombreux styles ont ensuite été développés chez les Born Free, ces jeunes qui n'ont pas connu l'apartheid.
C'est le Vosho. Ce pas existe depuis longtemps, sans doute depuis 1999. Pour le faire, il faut que tu plies les genoux et que tu t'accroupisses. Voilà, tout en bas et tu remontes. C'est comme si tu allais presque t'asseoir, puis tu rebondis.
Tom London est l'un des créateurs de la troupe Soweto Finest, spécialiste du isbougeois, une danse cousine du pansula, avec un jeu de jambes toujours très vif. Le visage n'est pas en reste, puisque les mimiques font partie du style et une grande place est laissée à l'improvisation.
Isbougeois est une danse que l'on a inventée à Soweto, mais depuis, il y a des nouvelles versions. À Durban, par exemple, ils ont créé le Benga, qui est plus énergétique. Et désormais, il y a le Amapiano, une musique qui est venue avec ses propres pas de danse. La créativité, c'est pour les pionniers, les gens qui veulent toujours trouver de nouveaux mouvements, toujours réinventer pour garder les danses en vie et qu'elles restent actuelles. On est un peu né avec ça, et si les danses sont bien réalisées, elles peuvent toucher plein de gens. Tu peux raconter tellement sans ouvrir la bouche, juste en utilisant ton corps. Mais ça dépend de comment tu t'y prends.
Les Soweto Finest ont aujourd'hui quitté leur township. Ils répètent en jogging de marque dans leur studio, installé dans un grand centre commercial et où ils donnent aussi des cours pour partager leur danse. Lorsqu'ils sont entre eux, c'est à celui qui inventera le nouveau mouvement pour ajouter encore un peu d'originalité à leur performance. Sinetta Mbamaté, l'une des danseuses principales de la troupe, nous montre son pas préféré.
C'est assez récent. Quand ça a été inventé, tout le monde a adoré et on le fait beaucoup aujourd'hui. C'est un peu comme un chat qui saute sur le côté ou bien quelqu'un qui conduira un scooter. Et surtout, il faut tirer la langue en même temps. C'est un truc qu'on fait beaucoup entre nous.
La danse aujourd'hui est plus un prétexte pour prendre du plaisir, s'amuser. Mais pour Sinetta Mba, c'est toujours une façon de réinventer l'identité du ghetto et de partager une certaine fierté d'en être issu.
C'est assez particulier car ça vient de chez nous, c'est né dans nos rues. Et nos danses sont même inscrites dans des compétitions, alors que ce n'était pas le cas avant. Dans la rue ou dans les clubs, c'est une façon de communiquer entre nous, de se rapprocher d'autres gens. Quand on les voit danser, on se joint à eux pour apprendre des pas. C'est ce moment où on est fier de notre identité, on est entre nous. Peu importe la compétition, c'est à ce moment qu'on ne fait qu'un.
Cette riche culture de la résistance à la société dominante continue donc à vivre chez les danseurs des Township d'aujourd'hui, encore à la marge du système, mais prêts à s'affirmer par leur créativité.
En Afrique du Sud, la danse comme arme de contestation, un grand reportage de Claire Bargelès, réalisation Pierre Chaffanjon, un magazine à retrouver sur le site de RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.